On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Perhaps the most important day in our shared past, Thanksgiving!
Thanksgiving, l'Amérique s'arrête de travailler. Alors ce repas traditionnel, c'est bien de la dinde, ce repas traditionnel, c'est bien du maïs, des cranberries, c'est bien de la tarte comme on peut en faire aux États-Unis. George Bush a inauguré l'idée qu'il y aurait une dinde qui bénéficierait de la grâce présidentielle.
Thanksgiving sans dinde, c'est comme un 4 juillet sans tarte aux pommes.
Ça suffit, vous deux, c'est Thanksgiving aujourd'hui, alors essayez de coller tous les deux.
Happy Thanksgiving.
Good morning everybody and welcome. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il existe un événement qui rassemble, qui réconcilie une Amérique plus polarisée que jamais. Enfin une fête où les États-Unis sont vraiment unis. Happy Thanksgiving, le fameux week-end de Thanksgiving commence jeudi 22 novembre dans quelques jours. Tous les Américains sont dans les préparatifs pour cette fête qui est sans doute la plus importante de l'année et qui répond aussi, on va le voir, à des règles culinaires bien précises. On en parle avec notre invitée du jour, Kathleen Clarity. Good morning.
Good morning.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Kathleen.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
En direct, c'est nous qui vous remercions. Vu les très belles choses que vous nous avez apportées, il y en a partout sur ce studio. Vous êtes née à Chicago, vous avez grandi dans le Minnesota, vous avez déménagé en France en 1986, vous avez passé un CAP à l'école Ferrandi. Aujourd'hui, vous êtes cuisinière à l'atelier des chefs et vous êtes l'auteur d'une grosse somme qui est déjà un ouvrage de référence, on peut le dire, la cuisine américaine familiale et authentique. Je l'ai à mes côtés, j'ose à peine le soulever tellement il est lourd. Il pèse combien?
Il pèse son poids.
Il pèse son poids, c'est ça, c'est bien dit. C'est un gros bébé, la cuisine américaine familiale et authentique. C'est édité aux éditions Hachette Cuisine. Et plein de choses, je le disais, sur la table dont on va déguster aujourd'hui, dont cette très belle tarte qui est sous votre nez, ou plutôt sous votre micro de France Inter. C'est
le pumpkin pie.
Pumpkin pie, évidemment. On ne peut pas faire un Thanksgiving sans pumpkin pie, il ne faut pas être dyslexique.
Ça va être simple.
Ouais. Ils sont de la fête et je les retrouve aujourd'hui. On entend déjà Elvira Masson se moquer de moi. Ce sont mes chroniqueurs. Il y a donc Elvira Masson, évidemment, et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Good morning.
Good morning.
Ça va, Elvira?
Ça va et vous?
Oui.
Pleine forme.
Alors,
On fait un tour par New York avec un crochet par le Deep South, ça
très
vous
bien.
Va?
Ah parfait.
Southern Cuisine.
De New York jusqu'à la Southern Cuisine, ça nous plaît. Antoine?
Nous, bien évidemment, que boire avec la dinde, mais aussi pourquoi notre Donald National menace-t-il le vin français?
Oui, intéressant. On va revenir sur cette polémique qui a embrasé Twitter il y a quelques jours. Intéressant d'avoir le point de vue du journaliste expert Antoine Gerbel. N'hésitez pas à interagir dans l'émission depuis l'appli de France Inter, mais aussi sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter avec le mot-clé on va déguster.
Sur France Inter avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de se mettre à la table de Thanksgiving, nous aimerions, chère Kathleen, vous faire partager une expérience qu'on va qualifier d'automnale et d'insolite que nous avons vécue ensemble avec Elvira il y a quelques semaines. Où ça? Dans la région des Catskills. Vous connaissez cette région?
Magnifique, magnifique, très connue, super, nature sauvage,
exactement,
tout ce que j'aime.
C'est une région de campagne et de relief située dans l'état de New York, au nord de New York City. Ça vous rappelle des souvenirs?
Bien sûr, ça me rappelle des souvenirs. C'était magnifique, ouais. On a roulé pendant deux bonnes heures.
C'est vrai.
Pour se mettre au vert, ou plutôt au roux. Oui. C'était vraiment la couleur prédominante de ce paysage magnifique qu'on a traversé. Mm-hmm. Le temps d'arriver à Accord. Donc on est toujours dans l'état de New York, on a quitté Manhattan. Accord, c'est une petite town assez rurale. Et plus précisément, nous sommes arrivés à Westwind Orchard. Orchard, ça veut dire verger en anglais. C'est là que s'est installé un couple de New Yorkais d'origine italienne. Ils s'appellent Laura Ferrara et Fabio Cizzola. Ils ont retapé une ferme. Alors au départ, c'est une maison de campagne de New Yorkais en mal de verdure. Et puis Fabio, qui vient d'une famille d'agriculteurs italiens, se dit quand même, ces pommiers là qui donnent pas de fruits, c'est pas un peu dommage? Il faut imaginer quand même des pommiers à perte de vue. Donc il s'est attaqué aux pommiers. Il a commencé à les tailler, à faire des greffons. Les pommiers ont donné des pommes. Avec les pommes, il s'est mis à faire du cidre. Lequel cidre, je dois avouer, glisse à peu près tout seul dans le gosier. Ils ont installé des cochons, des poules qui vivent en liberté. Ils ont installé un four à pizza. aujourd'hui, c'est une ferme cidricole où on vient le week-end se régaler d'une pizza au feu de bois dans le jardin. Enfin, nous, on était dans le jardin, les brasero crépitaient, il y avait de la très très bonne
incroyable,
musique dans les speakers. Maintenant, je crois qu'il neige déjà en novembre à New York, à mon avis, c'est déjà sous un manteau blanc.
Oui.
Des pizzas. Alors, c'est pas une pizza napolitaine, c'est une pizza plutôt romaine, très très fine. On y mange des huîtres de Montauk, on boit leur cidre bio.
Absolument.
On a mangé des gnocchis de pommes de terre vitelotte, magnifiques. Une ndouja en carotte, ça vous savez vous savez très bien François parce qu'on me l'a partagé.
Oui.
La saucisse calabraise piquante.
Oui.
Dans une ambiance comme ça, idyllique, festive, joyeuse et très vertueuse.
Exactement, une très très belle adresse du cidre bio à base de variétés anciennes, une pizza locavore, de la pasta maison, le tout dans une ferme pleine de convictions et de bonnes intentions. West Wind Orchard, c'est la ferme auberge durable et bio de Fabio et Laura dans les Catskills au nord de New York City. Si vous avez l'occasion de passer par là, ça vaut le coup, on peut même y passer un week-end, c'est formidable et ça fait plaisir de voir les États-Unis sous ce jour à la fois fermier, durable. Et comme nous étions aux États-Unis il y a quelques semaines, c'était aussi pour célébrer un événement, on va déguster la France, notre encyclopédie sur la gastronomie française. Il est sorti il y a un an aux éditions Marabout et Radio France et il a fait sa sortie aux États-Unis le 14 octobre dernier, mais aussi en Angleterre et en Australie dans sa version anglaise sous le titre Let's Eat Friends. Je suis allé défendre les couleurs de notre livre il y a quelques semaines à travers un book tour, une tournée marathon qui m'a entraîné de l'ambassade de France à Washington à Omnivore Bookshop, une incroyable librairie spécialisée dans la gastronomie à San Francisco que vous connaissez peut-être, Kathleen, en passant par des restaurants, des plateaux télé, des radios à New York, à Boston. Let's Eat Friends, pour tout savoir en 432 pages et en anglais sur la cuisine française. Voilà, Laurent Thomas réalise cette émission en direct avec Julien Dumont à la technique et Nadia Chougui à la préparation. Djoubaka nous sert tout chaud. Un American Dream entre blues et folk. C'est signé J.S. Ondara. C'est un jeune Kenyan installé aux États-Unis depuis 5 ans. Happy Thanksgiving sur France Inter.
He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak guarding against the foe. And the ghost from the river is watching. She won't let you get any close. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot out the head of the hound. Now take just what you need, baby. Anymore won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. There's no running away.
Ça y est, on y est presque, le fameux quatrième jeudi de novembre. Cette année, Thanksgiving tombe le 22 novembre. Toute l'Amérique va s'arrêter pour célébrer la fête la plus importante du calendrier. Le jour même, les magasins sont fermés. La veille, le trafic aérien est particulièrement dense pour permettre aux Américains de se retrouver en famille. Et pourtant, de ce côté-ci de l'Atlantique, en France, on a encore du mal à comprendre cette fête. On la confond avec Halloween, on pense que Thanksgiving, c'est en fait un Christmas avant l'heure. Comment expliquez-vous, Kathleen Clarity, l'ignorance des Français en matière de Thanksgiving?
C'est tout simplement parce que c'est une fête à 100% américain. C'est-à-dire, oui, ça célèbre un événement très important. On en parlera tout à l'heure, je pense. Donc finalement, ça ne peut pas être connu ici parce que ça ne concerne pas de très près les Français.
Et ça tombe entre deux fêtes qui sont aussi importantes aux États-Unis. Il y a Halloween le 31 octobre.
Exactement, Halloween le 31 octobre, ensuite Noël. Et entre Halloween et Thanksgiving, on confond beaucoup parce qu'il y a toujours la fameuse citrouille un peu au milieu.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc on se trompe en fait. Mais en fait, ça n'a rien à voir en fait. Halloween, c'est les bonbons, trick or treat, les enfants, les déguisements.
Et à Thanksgiving, on la mange la citrouille.
Voilà. C'est ça, et en tarte de préférence.
La même.
On va y arriver assez vite à votre pumpkin pie, évidemment. Alors comment ça se passe? Imaginons l'importance sociologique quand même de cette fête de Thanksgiving. On mange, on boit abondamment. Le Thanksgiving est également la veille d'un autre jour important, puisqu'en gros, les Américains prennent un week-end de 4 jours. Ça commence le jeudi.
Tout à fait.
Le vendredi, c'est ce que l'on appelle
Black Friday.
C'est ça, et ensuite, il y a le week-end. Black ouais. Friday, c'est aussi important d'ailleurs, car c'est le lendemain de Thanksgiving. En général, les hommes sont devant la télé en finissant les restes devant un match de football américain.
De football, voilà, effectivement. Il digère, il colmate un peu sur les canapés, effectivement, le vendredi. C'est aussi le jour où les magasins commencent toutes leurs soldes. Et en fait, c'est toujours un peu le témoin de comment va être la saison de Noël pour les commerçants.
C'est ça, c'est un peu en fonction du chiffre d'affaires de cette journée du Black Friday qu'on va établir des pronostics de vente pour Christmas, c'est ça?
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. On n'oublie quand même pas le business. C'est une fête, mais aux États-Unis, il y a le shopping du vendredi qui est très important. Historiquement, Thanksgiving, il paraît que ça a commencé il y a très longtemps. Le premier repas de Thanksgiving en Amérique remonterait même à 1621.
Bravo, exactement. En fait, c'est les premiers arrivants ceux qui ont fui l'Angleterre, mm-hmm, qui sont arrivés sur la côte est des États-Unis sur ce climat très rude en plein hiver en fait, hein. Et effectivement, ils ont rencontré les Native Americans qui étaient sur place.
Donc c'était les Amérindiens.
Tout à fait. Mm-hmm. Voilà, c'était leur territoire, et en fait, au début, on va dire, ils ont pu vraiment faire ami-ami, donc tant mieux. Ça a un peu changé après, hélas. Et effectivement, ces Amérindiens ou les Native Americans leur ont appris à survivre. Parce que c'était tellement différent de l'Angleterre, vous imaginez. Il y avait des bêtes sauvages, il faisait froid, c'était quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit. Et ils leur ont tout appris, dont certains plats, certains ingrédients qu'on va retrouver systématiquement dans les plats de Thanksgiving. Le maïs, la dinde, les légumes racines, en fait, ce qu'on avait sur place.
Et la fameuse squash, enfin le fameux...
The pumpkin.
Les courges, absolument.
Toutes les courges, exactement.
Thanksgiving, littéralement, c'est l'action de grâce. C'était quand même hérité d'une tradition qui existait dans les sociétés paysannes de la vieille Europe, qui oui. consistait à remercier, au départ ça a une signification religieuse, hein. On remercie le Seigneur pour l'abondance des moissons, on le remercie pour tout ce qu'il a fait de bien dans l'année.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et le terme abondance, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un énorme repas, très copieux, bien plus copieux que de raison, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est pour remercier, pour montrer toute cette abondance que la Terre nous fournit.
C'est ça.
Donc c'est plutôt joli.
Et c'est presque plus important que le repas de Noël aux États-Unis.
Presque, parce que c'est toute la famille va se réunir forcément à Thanksgiving. À Noël, on va peut-être voyager à droite et à gauche, mais Thanksgiving, c'est 4 jours, tout le monde voyage. C'est des super souvenirs d'enfance, parce qu'on se retrouvait systématiquement et voilà.
Vous, ça se passait dans le Minnesota.
Tout à fait, dans le Minnesota.
Et Noël est quand même une fête religieuse. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on évite ces sujets. Et donc, les communautaristes font Thanksgiving. Tout le monde fait Thanksgiving.
Tout à fait. Voilà. On oublie un peu tout le jour de Thanksgiving. C'est un grand moment de communion, j'ai envie de dire, et de partage, et vraiment convivial.
Il n'y a plus du tout de connotation religieuse dans Thanksgiving. On ne va pas, les Américains ne vont pas à la messe.
Selon les familles, ça dépend. Mais en fait, non. Dans l'absolu, non, pas du tout. C'est un repas, en fait.
Et un repas, comme vous le disiez, abondant, généreux et qui obéit, attention c'est important aussi, à des figures imposées, à des règles culinaires finalement assez strictes. On ne fait pas trop d'écart pendant Thanksgiving, même si j'ai sous les yeux, je pouvais pas résister à l'idée de vous présenter ce dessin que j'aime beaucoup, l'un des fameux cartoons de la dessinatrice Rose Shast, que je confie à ma voisine Elvira Masson, publié dans le New Yorker en 2016, intitulé « The Last Thanksgiving ». Imaginez autour d'une table 10 personnages, donc c'est la traditionnelle table de réception, ovale, qui est totalement vide. Il y a des convives qui affichent tous un visage fermé. Une bulle qualifie le régime alimentaire de chacun. Gluten-free, intolérant au lactose, strictement cachère, vegan, gourmet pointu, etc. Est-ce que les États-Unis, avec l'essor, effectivement, de ces particularismes alimentaires, arrivent encore à s'entendre autour de la dinde, autour des figures imposées de Thanksgiving, Kathleen Clarity?
Alors, le dessin est hilarante.
J'adore. On peut le trouver en ligne assez facilement.
C'est sûr que c'est un peu ça, mais on va dire Thanksgiving, on oublie tout. C'est pas grave, en fait, effectivement, peu importe le régime alimentaire, on va mettre la dinde. C'est ça ce qui m'amuse beaucoup, parce que les États-Unis étant un pays énorme, il y a plusieurs ethnies, plein de cuisines différentes, mais Thanksgiving, coûte que coûte, ça va être la dinde.
Alors. Et on a la dinde, figurez-vous. Elle est en train de circuler autour du plateau dont on va déguster. Ça sent d'ailleurs très très bon. Vous nous l'avez préparée. Elle figure évidemment dans votre livre, qui est, on peut le dire, vraiment un livre extrêmement copieux avec toute la cuisine américaine. Alors pas seulement, on le verra, des hot dogs, du burger. Les Français ont évidemment tendance à caricaturer cette cuisine. C'est vraiment l'identité américaine culinaire dans toute sa diversité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ouais. Il y a un chapitre dédié à Thanksgiving et là on ne peut pas éviter bien sûr cette fameuse stuffed turkey.
Voilà.
Avec une recette de farce que vous nous expliquez tout de suite.
Oh, oui, tout à fait. Alors c'est une farce très complète, c'est pratiquement une garniture à lui toute seule. Moi je le fais à base de chair à saucisse, de cornbread, plein de petits légumes, une garniture aromatique, un peu de fond de volaille, un peu de porto rouge, des noisettes, des pommes, voilà. Et ça on farcit bien la dinde, on ficelle la dinde, on la rôtit bien. Alors là juste pour la petite histoire, il y a des très très belles dindes aux États-Unis. Heureusement on est en train d'aller plus vers des free range en fait, vers les dindes fermières.
Élevées en plein air.
Élevées en plein air et on trouve des super dindes en France dont je fais une petite mention parce que je l'ai fait plusieurs fois dernièrement, c'est la dinde rouge des Ardennes.
C'est vrai que la dinde n'est pas forcément la volaille la plus plébiscitée pour nos fêtes à Noël.
Pas beaucoup d'AOP.
On préfère le chapon. Il faut savoir que cet animal a été rapporté par les conquistadors d'Europe et les pilgrims l'ont côtoyé, cette volaille.
Tout à fait.
En arrivant aux États-Unis, car c'est vraiment une volaille d'origine américaine.
D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a failli être l'emblème national avant l'aigle.
Ah bon?
Je suis contente qu'ils aient choisi l'aigle quand même, c'est mieux. Mais la dinde, pourquoi est-ce qu'elle est un peu boudée? Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas la cuisiner et elle est toujours sèche. Mais alors là, je peux vous dire, hein, avec cette recette-là, non, franchement, elle est très, très farcie, on les badigeonne, enfin, c'est facile à préparer. Et voilà,
et vous l'arrosez tout le temps?
Tout le temps. Tout le temps. Et c'est pas sec. Et puis, une histoire de température. Enfin, vous allez pouvoir voir tout ça dans les recettes.
Votre farce est prodigieuse. Et il y a un petit côté sucré-salé. Ah oui. Très, très agréable. Il y a de la texture. On devine, j'imagine, non? Chestnut?
Des chestnuts, exactement. Des noisettes.
Oui.
Non, il n'y a pas de châtaigne.
Non, c'est hazelnut.
The hazelnuts, exactement. Noisettes. Voilà. Le dinde au marron, c'est plutôt français. Nous, on ne met pas de chestnut ou de marron.
Délicieux. Non, vraiment, très très bon.
Gentil,
la recette
merci.
En ligne, évidemment, sur franceinter.fr, à la page, on va déguster. Il y a également une sauce assez indispensable, aigre-douce, un peu fruitée, qui intervient dans ce plat.
Oui, c'est les cranberry sauce. C'est la compotée d'érelle. Alors ça, c'est
de
très...
canneberge.
Canneberge, c'est très canadien.
Okay.
Nous, on va dire cranberry ou érelle.
D'accord.
Si vous arrivez à en trouver des fraîches, et on en trouve, j'en ai trouvé à Paris, on en trouve de plus en plus, c'est très facile à faire, hein. Tu fais cuire ça dans un sirop de sucre, mais c'est tellement bon, parce qu'en fait, il y a une pectine naturelle dedans. À la cuisson, le pectine se met en place, une fois qu'elle est refroidie, on a une gelée naturelle, mais c'est juste top, quoi.
C'est un fruit génial, comme il y a une astringence, en plus, même si on met beaucoup de sucre, ça reste quand même très très frais en bouche, quoi.
Tout à fait.
Ça fait ça. Quand on la met en bouche. Ouais. Dans votre recette, 340 grammes de canneberge fraîche ou surgelée. On en trouve dans certains magasins surgelés, il faut le préciser. 25 centilitres d'eau, 20 grammes de sucre en poudre, ça reste tout à fait modeste comme
oui,
proportion de sucre.
Oui, en temps eau et sucre, hein, c'est un simple syrup.
Voilà. On mélange tout ça dans une casserole, enfin on fait d'abord un sirop, on ajoute les canneberges, on porte à nouveau à ébullition et là on obtient une délicieuse sauce fruitée qui accompagne très bien cette volaille, même si j'aurais tendance à dire qu'avec sa farce et le côté moelleux et riche en goût de cette farce, elle se suffit à elle-même en fait.
Quelque part, voilà, mais c'est bien d'avoir les... On fait beaucoup de sucré salé. L'autre particularité de Thanksgiving, c'est qu'en fait, on va tout mettre sur la table en même temps. Mmh. Aussi bien le chaud, le froid, les salades, les garnitures, la dinde. La seule chose, ce serait les desserts qui vont arriver ensuite. Mmh. Mais c'est vraiment, c'est encore une fois, cette côté très, très abondance.
C'est ça. Cornbread?
Cornbread, of course.
Il est là.
Cornbread, elle est là. Alors, moi, j'adore ça. En fait, le pain de maïs, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de maïs. Il y a encore beaucoup de maïs aux États-Unis. C'est une recette super simple. Mm-hmm. C'est plus comme un gâteau, en fait. On dit cornbread, mais il n'y a pas de levure. Hein. Mm-hmm. Une petite pointe de sucre, ça, juste chaud avec du beurre demi-sel dessus. C'est une tuerie, quoi. Et je l'ai utilisé même dans la farce.
C'est
je
ça.
L'ai mis dans la farce.
Ah, carrément.
Voilà, comme ça, à la place du pain de mie, en fait, on va mettre un peu de cornbread dedans.
Et à la page 142 de votre livre, La cuisine américaine familiale et authentique aux éditions Hachette Cuisine, il y a le pain de maïs, mais inspiré d'un chef que vous appréciez beaucoup, qu'on connaît pas en France, faut le reconnaître.
Oui,
qui contribue pourtant énormément à la remise au goût du jour de traditions anciennes du sud des États-Unis, notamment de Caroline du Sud. Hein.
Exactement, voilà, c'est Sean Brock.
Sean Brock. Vous connaissez le gars ou pas?
Pas du tout.
On va y aller, non?
Je vous accompagne.
Ouais, mais voilà, allons-y tous les trois avec Antoine peut-être.
Oui, oui, je suis.
Oui, c'est un chef un peu rock'n'roll qui est vraiment génial et qui effectivement qui a remis au goût du jour tous ces produits anciens, enfin tous ces ingrédients anciens du Sud, dont le riz, parce que le riz, c'est très labor intensive, c'est-à-dire il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de travail. Effectivement, au moment de l'esclavage, on va dire, il y avait cette main-d'œuvre. Malheureusement très disponible. Donc à la fin de tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est arrivé avec les riz instant, les Quaker Oats et autres, pas Oats mais les Uncle Ben's, pardon.
D'accord.
Qui est un riz pré-cuit qui, ok, voilà, c'est quand même pas pareil, quoi. Donc Sean Brock a réintégré le Carolina Gold,
oui.
Qui est un riz absolument fabuleux.
Donc une variété ancienne.
Variété ancienne qui est absolument délicieuse et surtout donc le fameux cornbread avec des variétés très anciennes de maïs. Avec de la poitrine de porc bien gras, on fait fondre tout ça. On cuit en fait la préparation de cornbread à même la cocotte. En
oui,
fait.
C'est ça, c'est tout à fait bien montré et bien illustré dans votre photo très appétissante.
Et c'est bon, c'est super bon en fait.
Mais vous avez goûté, Elvira?
C'est délicieux, je trouve.
Car pour lever toute ambiguïté, il ne s'agit absolument pas d'un gâteau, mais d'un pain qui accompagne en fait les plats salés de Thanksgiving, particulièrement Thanksgiving ou d'ailleurs à toutes occasions.
Dans le sud, très souvent en fait. Ça va être le pain qui va accompagner les plats dans le sud, les barbecues pour le 4 juillet et
c'est
autres.
Ça.
Mais effectivement, on l'utilise beaucoup pour les farces et pour Thanksgiving aussi.
Avec du lard fumé, de la farine de maïs, de la polenta pré-cuite, un peu de bicarbonate de sodium et du sel, on obtient franchement... Il y a un œuf aussi.
Il y en a neuf et aussi un peu de buttermilk.
Du buttermilk.
Du lait ribot ou du babeurre.
Lait ribot ou babeurre, absolument, si on veut évidemment adapter cette recette de cornbread à notre contexte français. La recette sur franceinter.fr et puis dans le livre, bien entendu, de Kathleen Clarity. Qu'est-ce qu'on boit pour Thanksgiving aux États-Unis? La réponse avec Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Happy Thanksgiving, Antoine Gerbel, on peut trinquer?
On peut trinquer, bien
allons-y.
Sûr. En avance. Alors avant, bien évidemment, de parler de que boire avec le repas de Thanksgiving, très riche, très complet, donc on aura énormément de choix, il faut quand même dire un mot sur une polémique.
Eh oui.
Qui est arrivée ces jours-ci.
Auquel on ne peut pas avoir échappé.
On ne peut pas avoir échappé, c'est ce fameux tweet de Donald Trump quand il est rentré aux États-Unis, très énervé, on le sait bien, contre le président Macron et les Français. Donc il a fait un tweet disant en gros que ils sont bien sympathiques, ces Français, ils font de bons vins, mais nous aussi, Américains, on fait de très bons vins. Et puis, j'ai regardé quand même, nos vins américains ne sont absolument pas présents en France, alors que les vins français rayonnent. Et ils sont vendus surtout tellement peu cher, ces vins français aux États-Unis, il n'y a pas de taxes. Alors là où il est malin, ce cher Donald, c'est que effectivement, si on regarde bien, il a raison, il y a moins de taxes aujourd'hui sur les vins français importés aux États-Unis que sur les vins américains. Mais alors, moins de quoi on parle? C'est-à-dire que pour les vins à 13 degrés, parce que c'est un rapport avec le contenant et le degré, on parle de 5 cents d'écart entre l'importation, les différentes importations qu'on importe en France ou aux États-Unis.
Par bouteille.
Par bouteille. Quand on voit le prix moyen du vin, que ce soit même en France aujourd'hui, les prix ont énormément augmenté, ou même aux États-Unis, on parle vraiment de pas grand-chose. Et quand on parle des vins de plus de 14 degrés, ce qui est le cas des vins américains, puisqu'ils sont assez riches, c'est un centime d'écart. Donc c'est vraiment tout petit. Mais il y a autre chose derrière, c'est qu'il faut savoir que nous, les vins américains, chez nous, ça représente 1% de la consommation des vins étrangers. Pas des vins français, des vins étrangers. Donc rien du tout. Alors que nous, on pèse énormément aux États-Unis. C'est notre troisième poste d'importation, d'exportation, puisque c'est 1,7 milliard, juste derrière l'aéronautique et la pharmacie.
Donc, je crois même que les Américains sont nos premiers clients.
Et c'est bien évidemment nos premiers clients aujourd'hui. Alors bon, c'est sympa parce que il met un petit coup comme ça. Puis il y a une troisième lecture qu'il faut voir, c'est que le troisième fils de Donald Trump, Eric, de quoi il s'occupe? Il s'occupe d'un domaine viticole en Virginie,
ah ben voilà.
Bien évidemment. une grosse winery type Disneyland, comme on aime beaucoup aux États-Unis, qui fait énormément de visites. Donc, on vend plus autant de parapluies que de bouteilles de vin et de t-shirts. Mais c'est très populaire. Et donc, il a fait d'ailleurs, pendant sa campagne présidentielle, il a beaucoup parlé du vin dans ce sens-là. Donc, il voudrait bien également qu'on découvre son vin. Bon, les critiques américains sont terribles avec le vin de Donald Trump. Mm-hmm. Ils le qualifient, je vous dis, mais de moins que rien. Pour eux, c'est... Il y en a un qui dit c'est de l'eau, du sucre et peut-être un peu d'alcool. Donc vous voyez, on est vraiment très très méchant.
Et bon, j'ai suivi l'affaire sur Twitter. Je ne sais pas si c'est votre cas, Kathleen, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'American Wine Journalists qui expliquaient juste, bon, les Français ne boivent pas tellement de vin américain. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'en boire? Enfin, je ne dis pas qu'il y a évidemment de très bons vins aux États-Unis. Oui. On est plutôt bien doté en matière de vin en France et on a envie de boire ces vins, tout simplement, non?
Bah, je pense. Mais en effet, oui, on a un peu mauvaise presse avec le vin américain, parce que, à la fois, il est très riche, comme vous avez dit. En fait, 14 degrés, ça fait des vins quand même hyper charcutés.
Assez corpulents, oui.
Assez corpulents. Mais il y en a des très bons. Ça,
ah, tout à fait. Alors, bien évidemment. Alors, on est chauvin, c'est évident. On boit plus de vin italien et espagnol en France. Hein, c'est des marchés qui se développent quand même plutôt bien. Mais il faut savoir que les bons vins américains sont très chers. Vous savez que la Californie, si on considère la Californie comme Bordeaux, Bourgogne, c'est le lieu au monde où il y a le plus de marques vendues à plus de $150. Donc, c'est pas les grands châteaux Bordeaux les plus chers. Là, on va dire la concentration de vins chers, c'est la Californie. Et ça correspond au train de vie de la Californie. On met beaucoup plus d'argent dans la style life et notamment dans les vins. Et puis, je rappelle une chose, c'est que au milieu des années 90, le numéro un des vins américains, c'est le groupe Gallo, a essayé de s'implanter en France. Je suis parti aux États-Unis enquêter pour voir qu'est-ce qu'ils préparaient dans la Central Valley, dans la Sonoma. Et ils sont arrivés en grande surface avec beaucoup de moyens, ils ont mis beaucoup d'argent et ils sont repartis 2 ans plus tard parce que ça n'a pas marché. Le Zinfandel, qui était le cépage principalement mis en avant, eh ben on a le Carignan, on a le Grenache. Nous en France, on a même des vins même espagnols qui sont très proches, qui sont beaucoup moins chers. Alors, j'ai lu que Gallo revenait aujourd'hui, au Gallo, sans jeu de mots, avec d'autres moyens, ils sont malins, c'est-à-dire maintenant ils ont créé d'autres marques, beaucoup plus qui sentent le terroir, qui rappellent un peu la tradition viticole qu'on aime bien en France. Et donc on va revoir très bientôt des vins américains.
Aux États-Unis, on fait du vin en Californie, vous disiez qu'il était dans le Maryland, non?
Dans l'Oregon.
Dans l'Oregon, alors, partout.
L'Oregon principalement, il y en a au Texas, il y en a à peu près dans tous les États aujourd'hui. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est la côte Est. Mais surtout, en Virginie notamment, parce que c'est un spot touristique très important et que c'est vraiment un voyage touristique pour les Américains. Ils achètent un peu du vin, mais le circuit d'un domaine viticole américain, les Français d'ailleurs devraient en prendre exemple pour notamment ce qu'on appelle le no-tourisme.
Chapitre de cette polémique sur les vins américains fermé.
Refermé. Et alors, c'est l'occasion de parler de que boire avec la dinde, bien évidemment. Donc, cette volaille, on l'aime tout petit parce qu'elle est très tendre. Hein. On a quand même un rapport vraiment très, très délicat avec cette texture. Il y a plein de choses. Hein. Bon, quand on regarde ce que boivent les Américains, donc, initialement, ils parlent effectivement de jus de pomme un peu fermenté, début de fermentation. Ça correspond à la saison. On a l'automne. Et étonnamment, par rapport à cette saison, il y a le Beaujolais nouveau aussi qui arrive aux États-Unis. Donc, on voit souvent dans les restaurants le menu de Thanksgiving associé avec le Beaujolais nouveau.
Et bon, ben voilà, l'amitié franco-américaine célébrée dans le verre.
Voilà. Mais sinon, on trouve de tout. On pourrait dire qu'on pourrait mettre un blanc, mais ça dépend. Si on est sur une farce comme la vôtre, qui est très puissante, qui est quand même dans les associations sucrées-salées, on pourrait prendre un blanc en accord parfait. Mais comme moi, j'ai déjà assisté à un repas de Thanksgiving, il y a plein de choses sur la table. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de desserts. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt prendre un vin un peu riche, un peu riche, et on, donc moi je suis parti sur autre chose, une version française, et ça me donne l'occasion de parler de Kéran, qui est un super côte du Rhône qui est devenu cru de la vallée du Rhône. J'ai fait une belle dégustation il y a quelques jours autour de ce cru, et je pensais à notre émission, je me dis mais ce côté fin, légèrement sucré, un peu réglissé, mentholé, ça va bien convenir. Alors je vous ai amené un vin de Kéran aujourd'hui, d'un domaine pas très connu, parce qu'il y a quelques stars. Marcel Richaud, ça vous dit quelque chose?
Évidemment.
Le Richard Gir de la vallée du Rhône, c'est comme ça. On l'appelle. Mais il y a aussi le domaine des Escaravailles, le domaine de l'Oratoire Saint-Martin. Il y a 4-5 très beaux domaines. Kéran a eu des problèmes de quitter de cette famille des Côtes-du-Rhône-Village pour devenir vraiment cru. Bon, on va passer, c'est des histoires un peu politiques. Aujourd'hui, ils arrivent sur le marché. C'est entre 8 et 15 euros. Donc le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Bien plus intéressant que le grand voisin Châteauneuf-du-Pape ou même Gigondas, le petit voisin à l'Est. Alors je vous ai amené le domaine Amadieu, des Amadieu. C'est pas encore très connu. C'est bio, c'est biodynamique, c'est fait avec une immense précision. C'est un jurassien qui est arrivé il y a 7 ans dans le village. Ingénieur agronome, il a travaillé dans le comté longtemps. Après, il a travaillé dans la grande distribution, sur la logistique, et puis il s'est dit, ma tête est vraiment pas faite pour ça. Je suis un homme de la terre, et quand on le rencontre, il ne faut pas regarder ses yeux, il a de beaux yeux, mais surtout ses mains. Ses mains sont vraiment les mains d'un grand vigneron. Et il fait, moi j'aime ces vins où vous pensez bien évidemment sud et vous fait rêver nord en fin de bouche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie, une fraîcheur, une délicatesse. Ça coûte, ça m'était l'occasion. J'ai traversé la rue ce matin, en face de la maison de la radio. J'ai découvert les petits domaines. C'est une cave qui est rue de Grenelle.
Bien sûr.
208. Isabelle, la Renaudie, elle est toute seule dans cette cave. C'est une femme charmante et elle a une sélection parfaite. Elle me dit, je l'appelle. Dit, oui, j'adore Kéran et j'ai le vin. Elle nous a présenté la cuvée Garrigue. Il y a une cuvée encore moins chère qui est la cuvée Vieille Vigne.
On est autour de quel prix? Et là, vous parlez d'un prix caviste, hein?
Prix caviste, entre 12 et 14 euros.
Très bien, vous nous en rappelez les références?
Alors, domaine des Amadieu, Kéran, cuvée Garrigue, et le vigneron s'appelle Yves Auxerre.
Je crois savoir, Kathleen Clarity, que Thanksgiving, ça se passe chez vous en France ce soir.
Oui.
Avec quelques jours d'avance par rapport au 22 novembre. Vous habitez dans la Loire, me semble-t-il, dans le Val-de-Loire.
Dans le Val-de-Loire, pas du tout. J'habite tout près de Paris.
Mais ah, pardon, c'est
pas
excusez-moi.
J'aimerais bien.
Mais non, mais on s'est rencontrés la première fois à Tours, en fait.
Mais oui, exactement. Oui, voilà, à Saumur.
À Saumur, en plus. Ouh là là, on se rencontre tous à Tours. Et vous habitez à Paris. Il y a quoi dans vos verres?
Alors, dans les verres ce soir, bon, alors là, je vais peut-être essayer de trouver du Kéran parce que c'est une super idée. Pour l'instant, j'avais juste prévu un petit pinot noir.
Voilà, petit pinot noir. Voilà. Le pinot noir qui va très bien avec la cranberry.
Oui, tout à fait. Le côté fruité.
Et la dinde est déjà en train de cuire. C'est combien de temps à l'avance? C'est des heures, non?
Alors, ça dépend du poids, mais il faut compter pour une belle dinde fermière, 2-3 heures de cuisson.
On passe au dessert et notamment à la fameuse pumpkin pie, juste après les oxalis. C'est le nouveau titre de Charlotte Gainsbourg. Belle journée sur France Inter. On va déguster, vous souhaite un Happy Thanksgiving. Nous sommes en direct depuis la maison de la radio avec notre chroniqueur vin Antoine Gerbel qui est en train de s'en mettre un petit coup, petite gorgée. Il est bon ce Caran, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà,
je sais pas qui vous l'a recommandé, mais vraiment.
Franco-américaine, célébrée dans les assiettes et dans les verres, dont on va déguster. Elvira Masson est aussi de la partie. Vous nous faites découvrir une food writer assez méconnue dans quelques instants. Notre invitée principale, Kathleen Clarity, auteure d'une somme très importante sur la cuisine américaine, familiale et authentique. Vous insistiez pendant le disque pour nous dire que non, la cuisine américaine, ce n'est pas que des burgers, du fat, des hot dogs, des cupcakes.
Pas du tout. C'est pas que du sucré, du fast food, du mauvais. C'est pas que ce qu'on voit dans les séries américaines. Et c'est vraiment, enfin, malheureusement, ils nous ont fait une très très mauvaise presse, toutes ces séries. On les adore, mais enfin, c'est pas ça du tout. On cuisine aux États-Unis. Faut pas croire.
Bien sûr. Mais moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'en rendre compte, évidemment. Et non seulement on cuisine, mais vous le prouvez à travers une action assez ambitieuse que vous menez, notamment, à la demande de l'ambassade américaine à Paris.
Oui, c'est une très très belle opération, en fait. On parle diplomatie culinaire avec l'ambassade.
Parce
qu'on s'est rendu compte, effectivement, cette cuisine, elle est très mal connue. On arrive à faire comprendre beaucoup mieux une société à travers sa cuisine. Ça, c'est évident. Ça a toujours été, hein. Enfin, depuis que le monde est monde. Et surtout, moi, je suis sur mon cheval de bataille contre les hot dogs que, très honnêtement, je déteste, en fait. je ne peux pas manger hot dog.
Même sur les trottoirs à New York.
Non, vraiment, même pas. Voilà, j'ai jamais aimé ça. Mais effectivement, alors, c'est un énorme pays. C'est un pays avant tout de paysans aussi, comme la France. Et on cuisine avec ce qu'on a, en fait. On peut pas, on n'a pas toujours les moyens d'aller au restaurant et d'aller acheter du fast-food à droite et à gauche. Et ben, on prend ce qu'on a et on cuisine.
Il faut quand même savoir que les États-Unis font 17 fois la superficie de la France et que la cuisine de Louisiane n'est pas celle du Maine, qui n'est pas celle de la côte ouest, sans parler des influences italiennes dans Little Italy à New York et j'en passe. Vous dites que la cuisine américaine est un gros salad bowl.
Oui, exactement. On apprend deux théories en histoire aux États-Unis, le melting pot, où tout fond ensemble et toutes les ethnies deviennent le même, ou alors salad bowl. Et c'est vraiment le saladier, c'est ce que je préfère. La tomate reste la tomate, la salade, le concombre. On repère ces ethnies et je trouve ça vraiment plus intéressant comme technique, en fait, comme méthode.
Rassurez-moi, la pumpkin pie est bien américaine?
Oui.
Elle est très très belle. Est-ce que quelqu'un l'a déjà goûtée?
Elle est très très bonne aussi.
Ah, et en plus, on a affaire à une bec sucrée très 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 spécialisée.
Ah,
pumpkin pie à la page 99 de votre livre. Alors, c'est vrai que la pumpkin pie, pumpkin citrouille, pie tarte, c'est la fameuse tarte à la citrouille qu'on sert en dessert à Thanksgiving, qu'on fait avec quelle courge? Du potimarron, vous utilisez là?
On peut utiliser potimarron, on peut utiliser vraiment toutes les courges que l'on veut.
Parfois, on voit butternut.
Butternut, c'est très bien, c'est très crémeux.
Le doux beurre.
Voilà, traditionnellement, pardon, ça va être le potiron, le citrouille en fait.
C'est ça. Alors, il y a la recette pour faire une pâte, mais ça, on va laisser nos auditeurs la regarder sur Internet.
Oui.
Vous nous avez offert cette très belle recette de pumpkin pie. En revanche, on aimerait vraiment ce qu'on appelle l'appareil, vous savez, cette garniture.
La garniture,
qui va vraiment coiffer cette tarte, composée de potiron entre autres et de quelques autres ingrédients.
Alors, en fait, juste pour la petite histoire aux États-Unis, hélas, il existe du pumpkin en boîte.
Ah.
Donc, beaucoup de ménagères ne savent pas le travail. Donc
oui,
ils
mais
il
paraît que ça marche très bien.
Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ce que tu dis, c'est plutôt naturel. Bon, enfin, en France, ça n'existe pas, heureusement. Donc, en fait, il faut juste prendre un bon gros morceau de potiron que je rôtis au four.
300 grammes.
300 grammes, exactement. On récupère la chair, on la mixe. Et c'est mélangé avec un peu d'œuf, de la crème fraîche. C'est mélangé avec un peu de sucre. J'ai pris deux sucres, sucre roux, sucre semoule, mais pas beaucoup. C'est pas très sucré. Et surtout les épices. Enfin, les pumpkin spices, c'est vraiment très connu. C'est gingembre, cannelle, noix de muscade, clou de girofle.
Voilà.
Ça existe tout fait.
Ça, c'est le quatuor des épices pour la pumpkin pie.
Tout à fait. Le pumpkin spice de nos rêves. Et tout ça, c'est cuit. En fait, on verse sur la pâte qui est déjà cuit à blanc, on verse la garniture, on met au four à 150 degrés, donc basse température, et c'est 1h30 de cuisson. C'est assez long. Hein. Après, on a une garniture super moelleuse, et après, je fais juste un chantilly dans lequel je mélange un peu d'épices avec, et voilà, des petites rosaces de chantilly.
Oh, c'est bon.
S'il vous plaît, c'est bon. Hein.
Ah, j'adore.
Un petit coup déjà de fête de Noël, je trouve, déjà avec la cannelle.
Moi, j'allais dire qu'on n'était pas très loin de l'Alsace.
Oui.
Pardon, mais avec la muscade, le clou de girofle. Gingembre et cannelle.
Exactement.
Excusez-moi de parler la bouche pleine. On se fait reprocher de temps en temps par nos auditeurs.
On a la seule émission, on a le droit de parler la bouche pleine.
Absolument. Et on ne s'en prive pas. Merci pour cette pumpkin pie qui est vraiment délicieuse et qu'on va évidemment continuer à se partager. Nous avons une surprise, Kathleen Clarity, concernant un autre dessert abordé dans votre livre. On a confié votre bible culinaire à un gastronome en culotte courte. Il a 14 ans, il est en troisième, il se prénomme Léonard. Il adore la cuisine en général et le baking en particulier, tout ce qui concerne ses traditions pâtissières et boulangères typiques des pays anglo-saxons. C'est un fou furieux de carrot cake. Et figurez-vous qu'il a testé le vôtre en suivant plus ou moins la recette.
Plus ou moins.
Attention, crash test.
Donc je vais commencer par faire cuire les pommes râpées dans une casserole. Donc 300 grammes de pommes râpées, je pèse. Bah c'est lourd des pommes. Bon, c'est des pommes bio, donc ça va, j'ai pas besoin d'enlever les pesticides. Hein. D'habitude, je mets pas de pommes. Mais bon, c'est intéressant. Donc, j'essaye la recette de l'amie Kathleen. Donc, les pommes râpées à cuire, comme pour une compote. 300 grammes de carottes, c'est à peu près 3 belles carottes. Je les râpe. Moi, j'aime bien la carotte cake parce que... ça fait un peu bizarre quand on y pense, mais on se rend pas vraiment compte qu'il y a de la carotte. Et puis ça change quand même quelque chose parce que ça a un bon goût, mais on sait pas pourquoi. C'est un peu mystérieux. J'aime bien le glaçage aussi dans le carrot cake, surtout. Préchauffer le four, c'est fait. Mélanger dans un bol la farine, le sucre, le bicarbonate, la cannelle, le sel et les 4 épices. D'accord, alors farine, c'est combien de grammes? 300 grammes. 250 grammes de sucre glace. Eh ben, on voit qu'on parle d'américain là, hein. Moi d'habitude dans mon carrot cake je mets pas de sucre glace mais du sucre de coco. C'est autant sucré mais ça apporte plus de sucre naturel en fait. Donc c'est bon pour la santé. Je sais pas pourquoi elle met du sucre glace d'ailleurs. Moi j'aime pas trop la cannelle donc j'en mets pas. Et le mélange 4 épices. Est-ce qu'il y a de la noix de muscade là-dedans? C'est bon, pas besoin de rajouter de la noix de muscade. Un peu de sel. Et dans un autre saladier, il faut fouetter donc l'huile. Je vais mettre de l'huile de coco. Moi je préfère le goût de l'huile de coco. 100 grammes de beurre fondu, donc je vais faire fondre le beurre à la casserole. Moi j'aime pas trop les micro-ondes, tout ça. Et en attendant, je casse 3 œufs bio, de poule élevée en plein air. Et je commence à fouetter les œufs. Je préfère faire des gâteaux parce que c'est plus convivial. Ça rend plus heureux les gens qui ont pas la salée. Et maintenant, on regarde le livre. Ok, faut mélanger le tout. Tablier pour arrêter de saluer à mon pull. Je vais rajouter un peu d'extrait de vanille aussi. Juste quelques gouttes. Ensuite, j'ajoute les noix concassées. Ça sent la pomme. Ça déchire. La noix de coco râpée. Je peux pas affirmer. Ah bon. Et je crois qu'on a fini. Je vais huiler mes deux moules avec de l'huile de coco. Et ensuite, je mets du sucre un peu partout pour caraméliser le fond et les bords. Donc voilà, dans deux moules ronds qui font la même taille. Pour ensuite pouvoir faire un beau gâteau. Et je vais pouvoir enfourner ça. Au même niveau. Et donc c'est parti pour 40 à 50 minutes. Bon, pendant que le gâteau cuit, je vais préparer le glaçage avec 450 g de Philadelphia et 70 g de sucre glace. La noix de coco râpée, je la mettrai au-dessus. Et en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter plutôt des zestes d'agrumes dans mon glaçage. Ça donne un petit côté frais, donc je vais faire ça. Je remets la dose, hein. Comme ça c'est bien, bien fruité, ça explose dans la bouche. Je mélange le glaçage avec les zestes et je peux le laisser au frigo pendant que mon gâteau cuit. Et voilà.
Le carrot cake de Kathleen Clarity, librement interprété par Léonard. Vous connaissez le patronyme de Léonard ou pas?
Je crois.
Ben en fait, c'est le fils d'Hervé Pochon. Oui.
On reconnaît un peu.
Qui est lui-même le mari de notre réalisatrice, Laurent Thomas. Voilà. Et ils ont un fils qui est obsédé de pâtisserie. Il en fait très souvent. Et d'ailleurs, sa maman lui reproche souvent de ne pas faire le ménage dans sa chambre après avoir fait un carrot cake. Donc c'est Laurent qui passe derrière et qui range tout, etc. Et comme par miracle, ce fameux carrot cake, qui est le vôtre en fait, puisqu'il est basé sur votre recette, a atterri sur le plateau dont on va déguster. Et là, le crash test, c'est...
c'est un layer cake. Il y a des couches avec un glaçage entre les couches.
Vous avez raison de le préciser.
Très joli.
Et cette fois, ce carrot cake, mon cher Léonard. Et crash testé par Kathleen Clarity.
Bon, d'avoir l'aspect, c'est super joli, bravo. Ouais. D'avoir découpé les couches, parce que c'est pas évident, juste pile poil comme il faut. Le glaçage, nickel. Nickel, nickel, les petits zestes et tout, c'est magnifique. Attends,
c'est super.
Je goûte, j'adore la couleur.
Très belle couleur.
Une belle couleur.
On distingue les carottes râpées, on distingue les...
Là, c'est mon tour de parler la bouche pleine.
Bravo, bravo.
Ah là, c'est
bravo,
super. Léonard. Alors, Léonard, c'est génial. J'ai entendu, en fait... que tu avais changé le sucre glace pour le sucre de coco.
Tu ne refais plus jamais ça.
C'est plutôt une bonne idée, je ne suis pas contre, mais quand même, ne saccage pas mes recettes, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est super bon, très très bon. Les noix délicieux.
On sent bien la carotte. Derrière le coco.
On sent bien le narcissisme d'Antoine.
Voilà, et le carrot cake de Kathleen Clarity. Bah là aussi, c'est une recette qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que le carrot cake, c'est vraiment un dessert iconique aux États-Unis. On le trouve un peu à toutes les sauces.
Oui, toujours. C'est pareil, on retrouve ces mêmes épices, on adore ça en fait, ce mélange de cannelle. Il y a toujours un petit fond de cannelle à peu près partout. Mm-hmm. Carrot cake, en fait, voilà, ça nous donne bonne conscience. C'est des légumes, n'est-ce pas?
Donc, absolument, il n'y a pas trop de sucre puisque le légume, la carotte, apporte déjà un peu de sucre.
Avec surtout, toujours un glaçage au cream cheese et au sucre glace.
Oui, alors là, bon, on est un tout petit peu moins léger. Mais
voilà. C'est le problème. Mais les pommes, en fait, ce qui va donner le moelleux dans cette recette-là, c'est des pommes cuites. Et ça, tu l'as très bien réussi, hein, je tiens à le dire. Parce qu'effectivement, c'est comme une compote. Donc, du coup, voilà, ça donne tout ce côté un peu sucré et très moelleux.
Bon, promis, Léonard reviendra cuisiner dans l'émission.
Super parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, entre 10 et 14 ans, qui adorent faire de...
Et c'est une très bonne nouvelle.
Suivre des tutos sur Google, tout ça. Oui. Et ils font exactement ça. Ils adorent le carrot cake.
Et le petit Léonard à 14 ans...
Aujourd'hui, c'est peut-être le premier gâteau que font les enfants.
Et Léonard à 14 ans, en plus, une vraie conscience sustainable. Il est très attaché aux produits biologiques. Il paraît qu'il a même installé un système de compost chez lui. Ne vous en dis pas plus. On retourne à New York avec Elvira Masson.
On va déguster...
How are you, Elvira?
I'm well, how are you?
Yes, thanks.
J'ai découvert un endroit génial à New York, grâce à Annabelle Chakmes, qu'on connaît bien, qu'on avait reçu ici pour son livre sur la cuisine juive.
Formidable
quand
bouquin.
Quand elle a appris que j'étais à New York, elle m'a dit « Fonce tout de suite chez Bonnie Slotnick, tu vas devenir complètement dingue. » Bonnie Slotnick tient...
Elle a eu raison.
Elle a absolument raison. Elle tient une librairie depuis 20 ans, s'appelle Bonnie Slotnick Cookbooks. Alors il faut imaginer le basement, soit le sous-bassement, le sous-sol, d'une maison traditionnelle de East Village. Vous savez, ces petites maisons qu'on appelle des brownstones. On emprunte un petit escalier très raide, qui est assez bas de plafond. Bonnie Slotnick est à son bureau, elle n'est pas spécialement aimable. C'est très calme et c'est le paradis. Des rayonnages ultra denses, 5000 livres de recettes de cuisine, vintage. Certains remontent jusqu'au début du 19e siècle, dans un décor de salon de thé et d'Alice au Pays des Merveilles. Des livres consacrés pour une très large part à la cuisine américaine, ce qui signe ce que vous disiez, Kathleen, la richesse du terroir américain, de la cuisine américaine et des spécialités régionales, et notamment à la Southern Cuisine, qui est cette cuisine traditionnelle des États du Sud. On a goûté le cornbread de Kathleen, c'est typiquement une recette du Sud. Ce sont les États type Virginie, Caroline du Nord et du Sud, Louisiane, Maryland, Kentucky, Texas et j'en passe. Une cuisine riche, une cuisine qui est le fruit d'un héritage complexe. Les pionniers, les plantations, les esclaves, l'influence créole, le répertoire afro-américain. On parle alors de soul food quand on parle de cuisine afro-américaine.
C'est vrai, littéralement la cuisine de l'âme. Hein.
Exactement, comme la soul music, il y a la soul food. En schématisant un peu, c'est beaucoup de beans and greens, un peu moins de viande et beaucoup de beans and greens, du riz, beaucoup de mélasse, de saveurs fumées, de friture, je pense notamment au fried chicken bien sûr, beaucoup de farine de maïs, sour milk cornbread, cornmeal muffins, hush puppies, qui sont ces beignets de farine de maïs, des pecan pie, des grits, le gruau d'avoine qu'on mange parfois avec c'est bon les grits, qu'on mange parfois avec des crevettes, Virginia country ham. Toutes ces recettes.
C'est un jambon.
Glazed qu'on mange.
De Virginie, un peu laqué.
Magnifique, ouais. Toutes ces recettes sont réunies dans le travail d'une personne dont j'ai trouvé les livres chez Bonnie Slotnick. S'il y a un nom, un auteur à retenir dans la littérature culinaire de cette région, c'est celui de Edna Lewis.
Et là, un grand sourire s'affiche sur le visage de Kathleen. Ça vous dit quelque chose?
Ah oui, vraiment, vraiment. C'est une femme, une femme extraordinaire, une femme noire, magnifique d'ailleurs.
Très élégante.
Très élégante et qui a fait énormément de bien pour la cuisine du Sud.
Disparue en 2006, c'était la grande dame, on l'appelle d'ailleurs comme ça, la grande dame de la Southern Cuisine. Edna Lewis est née en 1916 à Freetown en Virginie, dans une famille de 8 enfants. Freetown, c'est une petite communauté rurale qui avait été fondée à la fin du 19e par 3 esclaves affranchis, parmi lesquels le grand-père d'Edna Lewis, d'où le nom de Freetown. Son grand-père avait également ouvert la première école à Freetown. Edna Lewis apprend la cuisine avec sa tante. Elle quitte son village natal à l'âge de 16 ans pour Washington, puis New York, où elle exerce les quelques divers métiers qui ne lui sont pas interdits. Elle travaille notamment dans une laverie automatique. Elle travaille un temps pour le journal de gauche Daily Worker. Elle fait campagne pour Roosevelt. Après la guerre, elle change de vie. Elle devient chef et associée d'un établissement qui s'appelle Café Nicholson, qui devient mythique. À l'époque, il n'y a pas de femme chef, encore moins de femme chef noire. Elle propose une cuisine simple, sudiste, qui fait courir le tout New York, Truman Capote, Richard Avedon, Gloria Vanderbilt, Marlène Dietrich, Diana Vreeland, Thaïlande, tout le monde s'attable au café Nicholson. Elle y travaille pendant presque 10 ans. À la faveur d'une jambe cassée un peu plus tard, elle commence à mettre ses souvenirs et ses recettes par écrit. En 1976, elle publie le livre de référence, qui s'appelle The Taste of Country Cooking, qui est le premier livre de cuisine d'une femme afro-américaine à devenir un best-seller national. Elle est l'une des premières à parler de l'importance des produits, des ressources, des saisons. Vous savez qui l'admirait beaucoup de son vivant ?
Ah !
MFK Fisher,
dont vous avez
dont parlé l'autre
à l'occasion
jour,
d'une émission que l'on a fait, et Alice Waters, la vie est bien faite, est une grande amie à vous.
Tout à fait.
Kathleen.
Oui, tout à fait.
On parle de la chef de Panis à Berkeley, voilà, près de San Francisco.
MFK Fisher, la grande auteure qui avait signé la biographie sentimentale de l'huître, admirait beaucoup Anna Lewis, et aujourd'hui, qui en effet dit lui devoir beaucoup, évidemment, ne serait-ce que pour le respect des produits des saisons, Alice Waters.
Voilà.
Voilà. Et la boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée, magnifique.
Hommage à Anna Lewis. Et traduisons ces livres.
Vous avez juste oublié de préciser que vous avez dévalisé cette fameuse librairie new-yorkaise.
Mais quelle magnifique librairie.
J'ai rapporté
ce livre, qui est donc pas le Taste of Country Cooking, mais The Gift of Southern Cooking.
Avec cette jolie couverture totalement
magnifique.
Désuète.
Ouais.
Bravo, belle aventure.
Redécouvrons-la, lisons-la, traduisons-la.
De la cuisine au féminin aux États-Unis. Antoine ?
À propos de New York, un jour j'irai à New York avec toi,
ouais.
Elvira. Et il faut surtout mettre à l'honneur aujourd'hui Pascaline Lepelletier, la première Française devenue meilleure sommelière de France. Et pourquoi New York ? Parce que elle est depuis 10 ans aux Racines New York, un super restaurant avec des vins nature qui est plutôt son esprit. Et pour rebondir sur les États-Unis, il y a des vins très lourds, mais il y a aussi de grands vins en ce moment dans cette mouvance de vins nature. Et aller aux Racines New York, rencontrer.
Bravo à Pascaline Lepelletier. Vous avez tout à fait raison.
C'est Angevine qui réussit aux États-Unis.
Et le concours des meilleurs sommeliers de France marque un vrai signe d'ouverture en récompensant effectivement une sommelière, mais en plus tournée vers les vins au naturel.
Tout à fait. Il y a une femme récompensée, mais c'était un autre concours. Ça s'appelait Sommelier et Restaurateur en 79. Mais donc Pascaline, voilà. Ça, et je suis content parce que ces sommeliers se dépoussièrent un peu. Tant mieux.
Vive les femmes chefs et vive les femmes sommelières.
Voilà. Et vive Kathleen Clarity qui a signé une très belle somme, la cuisine
Woman
américaine, familiale et authentique aux éditions Hachette Cuisine. On va essayer de vous piéger, il nous reste une minute trente avec quelques petites questions très rapides, réponses rapides. Vous êtes prête ou pas ?
Ça y est.
Anchois ou pas anchois dans la salade niçoise ? Dans la salade niçoise, oui, souvent. Pardon. Dans la salade César, Caesar salad.
Anchois, of course.
Obligatoire.
Obligatoire,
on
sinon c'est pas une Caesar salad.
Quel légume dans le coleslaw pour vous ?
Le chou.
Oui.
Carotte,
pas
de carotte.
Oh,
un tout petit peu, peut-être, mais enfin, c'est avant tout le chou.
D'accord, très bien. Quel fromage dans le cheesecake ?
Philadelphia.
On est obligé ?
Ouais.
Vous,
forcément,
en France, c'est Philadelphia que vous cherchez ?
Oui, mais c'est celle qui marche le mieux, évidemment.
On
c'est la moins salée, c'est, voilà. Elle a juste la matière grasse nécessaire,
petite
elle fonctionne très bien.
On parle d'un cream cheese.
Cream cheese, voilà.
La définition d'une salade Waldorf.
Ou une salade très chic, hein, qui était présente sur les tables à l'hôtel Waldorf à New
c'est
York.
C'est ça, et qui a été créée en 1894 par le maître d'hôtel de ce fameux hôtel new-yorkais.
Tout à fait. Tout
et
à fait.
Il y a dedans de la noix,
de la pomme,
céleri rave.
De céleri branche, on fait beaucoup de céleri branche, en
absolument.
Fait. On mange beaucoup de céleri branche, des pommes, des noix, une belle sauce un peu crémeuse.
C'est ça, en fait, vous avez raison, c'est pas du tout céleri rave, c'est céleri branche.
Céleri branche, beaucoup.
Découpée, absolument. Et elle est très très belle dans votre recette. Oula, j'ai découvert quelque chose de tout à fait intéressant à la page d'une recette que j'adore, la clam chowder.
Oh, my favorite.
Tomate ou pas tomate dans la clam chowder ?
Alors, il y a deux versions. Il y a la version Manhattan ou la version New England. New England, c'est avec de la crème et surtout pas de tomate. Et avec l'arrivée des Italiens sur Manhattan, ils ont allégé ça, ils ont mis de la tomate. Donc il y a une guéguerre entre les deux. Je préfère la version crémeuse.
Car la clam chowder, c'est à l'origine une soupe de palourde très crémeuse grâce à un mélange de lait et de crème qui vient s'ajouter au palourde, lard fumé, au céleri, oignon, vin blanc et ail. Et comme vous le disiez, les Américains immigrés, les immigrés italiens de New York ont allégé en remplaçant la crème par de la tomate.
Par la tomate.
Ils sont géniaux, ces Italiens. Merci Kathleen Clarity, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous, avec votre enthousiasme, votre sourire et votre très très belle recette et votre livre vraiment vraiment chouette qui sera en bonne place dans ma bibliothèque et qui est une référence.
Deux,
oui,
deux.
Pas loin, je suis en train de le poser là. Je
fais
la cuisine américaine familiale et authentique aux éditions Hachette Cuisine, voilà, pour voyager dans les marmites américaines.
Merci.
On vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dimanche prochain pour une émission très spéciale à l'occasion de Radio France Fête. Le livre On va déguster se déroulera en direct et en public depuis le fameux studio 104 avec le grand pâtissier Philippe Conticini notamment. Voilà, il suffit de vous inscrire gratuitement sur radiofrance.fr. On vous attend dimanche prochain à 11h. Et à cette occasion, on fera gagner plein de livres de cuisine. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.